France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, salut à Paul Bonneau, un des maîtres de la musique symphonique légère qu'il a illustré notamment à l'ERTF comme chef et compositeur tout en orchestrant les grandes opérettes du Châtelet. Pour l'évoquer, je reçois son fils Christian Bonneau qui est venu avec ses archives et nous entendrons également Nicole Broissin qui fut l'ami et l'interprète de Paul Bonneau. Mais d'abord, puisqu'un air de printemps commence à souffler après une année bien morose, écoutons cette chanson d'espoir enregistrée à l'automne 1941 en un temps plus sombre. Encore.
Mais une robe claire, voici venir l'été. Les parfums de la terre sont pleins de volupté. La chambre est trop petite pour notre grand amour. Allons-nous-en bien vite. Il paraît qu'alentour, chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amoureux. Que feraient les pauvres rosiers s'ils n'entendaient plus nos baisers? Les fleurs sans qu'on leur demande ont des parterres merveilleux
et dans mes bras tu es
heureux. Les oiseaux sont jaloux, mais ils chantent pour nous. Et pendant la semaine, vous tous qui m'écoutez, redonnez ma rengaine sans vous impatienter, car viendront les dimanches, le ciel sur le beau temps. Nous irons sous les branches, murmurer tendrement. Chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amoureux. Les pauvres rosiers, ils n'entendaient plus nos baisers.
Et dans mes bras tu es
heureux. Les oiseaux sont jaloux, mais il chante pour nous.
Les jardins nous attendent et les connaisseurs auront reconnu la voix de Jean Tranchant, un des premiers auteurs, compositeurs, interprètes à peu près en même temps que Charles Trenet, avec ici en plus la superbe orchestration de Pierre Chagnon. Et puis avant de parler de Paul Bonneau, bien, je voudrais quand même d'abord saluer la grande artiste qui nous a quittés le 15 février et que j'avais eu la joie de recevoir en 2007. On l'appelait parfois la Mireille nationale, mais elle avait chanté bien d'autres rôles et elle était une des dernières figures de la troupe de l'opéra et de l'opéra comique où brillaient les grands chanteurs français au lendemain de la guerre. On va d'ailleurs retrouver tout de suite sa voix et son charmant accent du Midi dans cet entretien donc où elle évoquait notamment la camaraderie qui régnait alors avec ses amis, justement, chanteurs et chanteuses, Jeanne Rhode, Maddy Mesplet et quelques autres.
Il y avait une très très bonne ambiance à l'opéra et à l'opéra comique.
C'est ça.
C'était une grande famille.
C'était pas à qui va prendre la première place contre les
non,
autres.
Non, pas du tout. Je pense que les rôles étaient très bien distribués et il y avait 4 ou 5 marguerites. Nous chantions à notre tour, nous chantions. C'était l'esprit de la troupe, vraiment.
C'est ça.
Et c'est ce qu'il n'y a plus actuellement.
Et
on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment des vedettes parmi nous. Nous étions des artistes qui nous chantions, nous faisions très bien notre métier. Le public nous aimait, nous avions un public, mais c'était formidable. Les sorties de représentation le dimanche après-midi à l'Opéra Comique rue Favart, Mais il y avait la police, quelquefois.
Ah oui.
Et c'était donc André Aguillot ici en duo avec Alain Vanzo dans Mireille, bien sûr. André Aguillot, né le 11 janvier 1928 dans le Gard, où elle nous a quittés le 15 février dernier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de France Musique l'intégralité de l'entretien que j'avais eu avec elle en 2007. Et puis, Je ne peux que constater un peu tristement que sa disparition fait suite de peu à celle de Gabriel Baquier, de Maddy Mesplé, de Michel Trampon, de Christiane et de Pierre. Quelle année, décidément. Allez, j'en profite quand même pour saluer Renée Doria qui, elle, file carrément sur ses 101 ans.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous avons rendez-vous maintenant avec un des maîtres de la musique symphonique légère qui exerça notamment beaucoup dans cette maison de la radio, mais aussi au Châtelet et partout ailleurs. Pour parler de lui, je reçois son fils Christian Bonneau, car aujourd'hui nous rendons hommage à Paul Bonneau. Bonjour Christian Bonneau.
Bonjour Benoît, merci de me recevoir. C'est juste
mais écoutez, c'est une joie de vous recevoir pour parler de votre père mais Paul oui. Bonneau. Et alors tiens, je commence tout de suite en entrant dans le vif du sujet, oui. De son amour des cloches et des carillons, parce que là c'est bien les sûr. Cloches de Paris. Oui. Et la dernière fois que vous étiez venu, on avait commencé par le carillon de Westminster.
Westminster, oui. Oui, c'est
il
vrai.
Adore s'inspirer des cloches dans ses œuvres légères.
Oui, oui. Et d'ailleurs, à la fin du titre Cloche de Paris, c'est mon père qui a souhaité rajouter des cloches qui viennent d'églises, et il y a dedans le bourdon de Notre-Dame, c'est un mélange de plusieurs campaniles, enfin de plusieurs clochers, dont certaines de Notre-Dame, oui, voilà, qu'on a.
Alors, en tout cas, on peut goûter dans ce morceau, voilà, le savoir-faire élégant d'un maître de la musique symphonique légère. Hein. C'était d'ailleurs l'Orchestre symphonique léger de Paris
qui avait l'OSLP, enregistré oui, oui.
cette œuvre, qui était l'orchestre avec lequel il enregistrait, à côté de ses activités à la radio, et avec des solistes formidables. Hein.
Dans son orchestre, qui était un orchestre philharmonique que lui, en fait, composait. C'est pas un orchestre qui lui était imposé, quelque chose à la qualité des musiciens. Voilà. Donc il y avait Roger Bourdin à la flûte.
Qu'on vient d'entendre. Hein,
que les Français connaissent par le titre Paris s'éveille de Jacques Dutronc. La partie de flûte, c'était Roger Bourdin. À la harpe, c'est la grande harpiste Lily Laskine. Au cor, c'est Georges Barbeteux.
Ah oui.
Et à la trompette, bien avant qu'il fasse ses concerts solo, c'était Maurice André.
Voilà, c'était donc c'était
pas les pires musiciens. Et Jacques Dieval au piano. Et Jacques Dieval au piano.
C'est merveilleux. Voilà, d'où la qualité sonore de ces enregistrements, la qualité musicale.
Ça jouait.
Alors, Paul Bonneau, les amateurs de musique le connaissent effectivement peut-être d'abord comme ce compositeur de musique symphonique légère, ce grand chef d'orchestre de musique symphonique légère, un homme qui a été aussi très présent du côté de l'opérette. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs en 2016. Et puis, on a fêté entre-temps les 100 ans de sa naissance. C'était en 2018.
C'est ça.
Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait pouvoir peut-être creuser un peu le sujet parce qu'il a une vie musicale tellement riche.
Ah oui.
Et vous-même, il faut dire, Christian Bonneau, que depuis fort longtemps, vous êtes musicien et vous vous passionnez pour le travail de votre père. Et on a pu faire cette émission aussi grâce aux archives que vous protégez, que vous entretenez, que vous connaissez.
Mais oui, j'ai la chance d'être un héritier qui est de la profession. Et en plus, j'ai fait des études d'ingénieur du son, donc j'aime travailler le son. Et je tiens de mon père qui était papier à musique au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire que j'ai de l'ordre. Et j'ai donc pratiquement toutes les archives sonores, que comme j'ai mon propre studio, que je peux restaurer, que je peux utiliser. Oui, j'adore faire ça.
Oui, d'ailleurs, vous avez tout fait ce matin. Je vous remercie publiquement de m'avoir proposé des morceaux merveilleux, connus et moins connus. Et il faut dire que vous-même, d'ailleurs, vous avez composé un certain nombre de pièces, y compris pour le grand Roger Bourdin que vous évoquiez à l'instant.
Oui, voilà. Oui, c'est un morceau qui s'appelle « Gymno flûte » pour deux flûtes traversières et accompagnement de clavier, voilà, que j'ai composé quand j'habitais à Londres en 71. Voilà.
Voilà. Il faut dire aussi que vous avez donc grandi auprès de ce grand musicien qui était votre père et vous l'avez accompagné, on peut dire, jusqu'à ces derniers jours.
Mais oui, et ma mère aussi, qui était la pianiste Jacqueline Bonneau, quand mes parents étaient ensemble. Ensuite, suite au divorce, ma mère s'est appelée pendant 3 ans Jacqueline Robin Bonneau, et ensuite, durant toute sa carrière, elle s'est appelée Jacqueline Robin. Voilà. Donc, ma mère est également une grande pianiste. Elle a été professeure au conservatoire quand c'était rue de Madrid. Et donc, indépendamment de ça, je suis aussi le filleul de Pierre de Vevey, qui était chef d'orchestre à la radio aussi. Ma marraine, c'était Geneviève Joie, l'épouse d'Henri Dutilleux. Je ne pouvais pas être géologue. Hein.
Alors, en tout cas, Christian Bonneau, on va donc revenir à la vie et à l'œuvre de votre père, en commençant tiens, très brièvement par ce générique intitulé « Harmonie ».
C'est émouvant d'entendre ça parce que c'est ce qui a été son générique de début et de fin d'émission lorsqu'il avait pour notre radio nationale ses émissions de 1944 à 1974.
Voilà, c'est toute ma Christian Bonneau, hein, c'est peut-être pour les auditeurs qui sont des fidèles de Radio France depuis de longues années, on a encore le souvenir de ce générique de début et de fin des émissions très nombreuses de Paul Bonneau, puisqu'il a été, il faut le rappeler, donc le grand homme de la musique légère à Radio France comme compositeur et comme chef d'orchestre pendant une très longue période. Oui. Mais revenons d'abord donc sur le jeune Paul Bonneau qui est né à Moret-sur-Loing dans la forêt de Fontainebleau, mais qui a grandi en fait à Évreux.
Oui.
Et c'est là que s'est révélée vraiment sa vocation de musicien, parce que notamment ses parents, si j'ai bien compris, avaient un magasin de musique.
Absolument, un magasin de musique.
Vos grands-parents donc.
Oui, mes grands-parents paternels. Un magasin de musique qui était toujours présent près de la place de l'église jusqu'il y a une quinzaine d'années. Ça s'appelait à Sainte-Cécile.
À Sainte-Cécile, à Évreux, voilà.
Voilà, et mes grands-parents vendaient des vieux gramophones, des aiguilles de 78 tours, des disques, des partitions, des instruments de musique, enfin c'était voilà.
Et le talent du petit Paul a été si net qu'on l'a poussé assez rapidement, lui aussi, vers la musique, puisque c'était une famille d'amoureux de la musique. Voilà.
Tout à fait. Ouais.
Il a été envoyé à Paris, donc, au conservatoire ?
Oui. C'est Maurice Duruflet qui a été l'instigateur de beaucoup de choses, qui était organiste à l'église Saint-Étienne-du-Mont.
C'est ça. Hein, voilà. Et aussi les frères Gallon au conservatoire de Paris.
Jean Gallon et Noël Gallon, voilà. Oui.
Et Bonneau va donc là remporter une collection de premiers prix.
Oui, tous les premiers prix, composition, fugue, contrepoint,
harmonie.
Direction d'orchestre, harmonie, oui. Et le piano avec Marguerite Long. Donc, voilà. Et ma mère aussi a eu des premiers prix.
Et des amis qui sont des condisciples, des gens comme Henri Dutilleux et quelques autres.
Henri Dutilleux, Raymond Gallois-Mombrin, qui est l'ancien directeur du conservatoire, Henri Betty, etc.
Qui composera C'est si bon.
C'est si bon, oui.
Voilà. Vos parents, d'ailleurs, on les retrouve quelques années plus tard lors de la création d'une cantate de votre père, alors jeune compositeur, à la cathédrale d'Évreux, justement.
Tout à fait. C'est pour l'inauguration des grandes orgues de la cathédrale d'Évreux que Paul, jeune, a composé une cantate. Ouais. Avec au piano dans l'église, il y avait un piano, c'était ma mère. Mon père était à l'orgue et s'occupant des chœurs, c'était le grand-père de Jacques Dutronc.
Oui, c'est pas mal, c'est drôle.
C'est amusant, c'est amusant. Ouais, ouais. Il y a aussi un atavisme artistique chez les Dutronc. Hein.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que le jeune Paul Bonneau, frais et moulu du conservatoire, qui aurait pu devenir un compositeur à la Dutilleux, justement, va se tourner vers la musique légère? Ce sera le fil des circonstances.
Avant de se tourner vers la musique légère, qu'il préférait d'ailleurs dénommer la musique symphonique légère. Oui. Voilà. Il a composé des œuvres philharmoniques, symphoniques, sérieuses, ouverture pour un drame. Et je voudrais ici faire un remerciement et un coup de chapeau à François Rousselot, qui a, l'année dernière, dans les pays de l'Est, enregistré pour près de 100 musiciens cette œuvre que mon père a composée. C'était son prix de composition avec, pour Henri Bussert. Ouais. C'était ouverture pour un drame. Voilà.
Et donc, il avait aussi une passion pour le saxophone.
Alors mon père jouait des timbales, du piano et du saxophone. C'est ce qui fait que ces pièces pour saxophone sont mondialement connues parce qu'il les a écrites sachant en jouer et en respectant les clés.
Voilà. Et alors on va retrouver tout de suite justement un petit extrait du Caprice en forme de valse de Paul Bonneau, joué par le grand Marcel Mulle, qui était le saxophoniste de l'époque. Et puis tout de suite après, pour illustrer cette évolution peut-être vers la musique symphonique légère, un extrait de la suite Un Français à New York, dont on reparlera immédiatement. Deux aspects de la musique du jeune compositeur Paul Bonneau. D'abord, voilà un morceau d'étude très brillant pour saxophone, un extrait du Caprice en forme de valse. Et puis tout de suite après, le final de la suite de jazz symphonique un français à New York, qui n'est pas d'ailleurs vraiment de la musique légère, hein, Christian Bono, c'est du grand jazz symphonique, on peut dire.
Oui. Et d'ailleurs, quand on est très proche de sa sortie du conservatoire, c'est très sérieux, très symphonique. C'est, par contre, ça n'est jamais dodécaphonique, ça n'est jamais trop dissonant, et ça n'est jamais arythmique. C'est de la musique quand même qui est très tonale, assez populaire, structurée, facile à l'écoute.
Mais cette œuvre, précisément, elle témoigne d'une passion pour Gershwin, pour la musique américaine.
Tout à fait. Oui. C'est le miroir d'un Américain à Paris, de George Gershwin, et cette œuvre de mon père.
Composée durant les années 40.
C'est ça, absolument, voilà. Et c'est une œuvre pour 80 musiciens et un chœur à quatre voix mixtes.
Oui, ce qu'on entend, c'est un mélange assez étonnant d'ailleurs.
Donc c'est le parallèle à l'américain à Paris, un français à New York.
Mais on pourrait dire donc qu'à ce moment-là, votre père, Paul Bono, pourrait évoluer vers une carrière purement classique de compositeur, et finalement ça ne va pas être le cas. Quelque chose s'est produit qui a changé sa direction.
Oui, c'est sa rencontre avec Raymond Legrand, le père de Michel Legrand, qui a incité mon père à faire des arrangements dans le domaine de la variété.
Il a commencé avec des chansons de Ray Ventura, d'ailleurs, notamment.
Oui, j'ai vu. Tout à fait. Et également pour Simone Langlois.
Ça n'empêchera pas Paul Bono de continuer à écrire des œuvres, disons, de caractère plus classique. Et alors, vous avez aussi retrouvé justement une rareté, Christian Bono, qui me fait très plaisir, parce que j'étais très proche et ami de Michel Sénéchal. C'est une série de poésies de Verlaine, des années 50, qui a été enregistré par Sénéchal. Un mot de cette œuvre, peut-être ?
Oui, mon père a mis en musique 6 poésies de Paul Verlaine. Oui. Il y en a une qui commence par Green, J'ai peur d'un baiser, Souvenir, Chevre de bois. Voilà, c'est ça que j'ai apporté.
Chevre de bois,
j'ai retrouvé les bandes magnétiques et je les ai numérisées, restaurées. Voilà, donc j'ai tout ça. Oui.
Tournez, tournez, bon chevaux de bois, tournez sans tour, tournez mieux tour, tournez souvent, et tournez toujours, tournez, tournez, au son des beaux bois. Soldats, la plus grosse bande sont sur vos dos comme dans leur chambre, car en ce jour au bois de la cambre, les maîtres sont tous durs en personne. Tournez, tournez, chevaux de leur cœur, tandis qu'au tour, le feu de vos doigts clignote l'œil, et qu'il vous doit tourner au son. Comme ça vous saoule d'aller ainsi dans ce cirque bête, bien dans le ventre et mal dans la tête, du mal en masse et du bien en foule. Tournez, tournez, sans qu'il soit besoin d'user jamais, de nous éperons pour commander, à vous galorons. Tournez, tournez, sans espoir de coin. Chez chevaux de leur âme, déjà voici que la nuit qui tombe va réunir pigeons et colombes, loin de la foire et loin de madame. Tournez, tournez, le ciel en velours, les astres en or, sonnez lentement, voici partir l'amant et l'amant. Tournez au son joyeux vers
le cher Michel Sénéchal dans ses chevaux de bois, extrait des 6 poésies de Verlaine pour voix et orchestre, donc ici, sous la direction, j'imagine, de Paul Bonneau lui-même, Christian Bonneau. Paul Bonneau, votre père, ce grand maître de la musique symphonique légère. On l'a vu donc après une formation vraiment sérieuse et classique de haut vol, qui va évoluer à la suite de certaines rencontres, comme Raymond Legrand, vers la musique légère. À la suite aussi, j'imagine, de tout ce travail qu'il a mené pendant des années à la radio, qui a commencé assez tôt. Il est devenu le chef d'orchestre qu'on appelait régulièrement pour les émissions de musique légère.
Ah oui, et même Roger Roger, que j'ai bien connu et que je respecte et que j'aime beaucoup, disait... Paul Bonneau était le chef de file de la musique légère à la française.
Voilà.
Même alors, Roger Roger disait ça.
Ouais. Donc à la radio, il en donnait des émissions très régulières.
Deux fois par semaine. Oui.
Deux fois par semaine. Ouais. Avec mélange de ses œuvres et des œuvres des autres sous sa direction.
Oui, et il ne jouait exclusivement que des œuvres françaises pour jouer la carte de la musique de compositeurs français.
Mais souvent des créations en fait.
Oui, tout à fait, des créations, absolument, oui.
Et alors donc, cette réputation de maître de la musique légère, et c'est tellement affirmé qu'il a été en fait engagé comme artiste chez Ducreté Thompson, qui est une des grandes maisons de disques de l'époque.
Ducreté Thompson, c'est devenu Pathé Marconi, et ensuite EMI, qui a maintenant été réabsorbé chez Warner ou Sony. Donc il avait un contrat d'artiste et il dirigeait nombre de pièces classique, classiciste ou opérette ou opéra comique. Il y a beaucoup de micro-sillons.
Arrangé pour orchestre.
Arrangé pour orchestre, et c'était dirigé sous sa baguette. Il y a eu beaucoup de publications pendant plus d'une décennie chez Ducreté Thompson.
Et alors, il mettait d'ailleurs un point d'honneur justement à ce que les arrangements, les orchestrations étaient toujours entièrement faites par lui. Déléguait pas ce travail.
Non, il faisait tout. Serge Elahi, qui est un ami commun, Serge Elahi, qui est un grand ami commun, qui a publié un livre sur les arrangeurs, m'a dit « Votre père est un travailleur infatigable. »
Infatigable. Ouais. Avec quand même, il faut dire, ça c'est pour les musiciens qui savent ce que c'est comme métier, l'aide d'un très fidèle copiste.
Mais oui, vous savez ça ? Oui. Alors c'est mon oncle qui était, encore un membre de ma famille qui était dans la musique. Mon oncle était musicien copiste. C'est-à-dire que quand mon père lui remettait un score d'orchestre avec verticalement timbale, contrebasse, violoncelle, violon, alto, je dis pas dans l'ordre, mais trombone, trompette, flûte, tout l'orchestre, il écrivait sur du papier à musique à la plume, à l'encre de Chine, chaque partie pour chaque pupitre. Aucune photocopie, un travail de fourmi, travail qui n'existe plus.
Voilà donc Paul Bonneau qui est lancé comme un grand arrangeur, un grand maître et chef d'orchestre de la musique légère, et puis qui se retrouve donc également associé aux opérettes du Châtelet. Comment ça s'est fait la rencontre Lehmann et Lopez ?
Alors, la première opérette à laquelle mon père a collaboré, c'est La Belle de Cadix.
Oui.
L'orchestrateur
Jacques-Henri Risse.
C'était Jacques-Henri Risse qui était avant auprès de Francis pour orchestrer. Jacques-Henri Risse est tombé gravement malade. Ouais. Et donc, à partir de La Belle de Cadix, mon père a commencé à orchestrer pour le Théâtre du Châtelet quelques numéros. Ouais. Et ensuite, Jacques-Henri Risse est tombé définitivement souffrant. Et à partir de l'opérette avec Luis Mariano, le chanteur de Mexico, mon père a orchestré toutes les opérettes de Lopez.
Tous ces morceaux hyper célèbres, c'est signé Paul Bonneau, avec quand même aussi l'art de Lopez de trouver des mélodies merveilleuses.
Attention, il y en a qui laissent entendre que c'est l'orchestrateur qui faisait tout. Les vertus mélodiques de Francis étaient énormes, mais c'est vrai que le tandem Bonneau-Lopez fonctionnait complètement. Voilà. Je peux écrâner le nom des opérettes qui ont été diffusées au Châtelet.
Bien sûr, mais on va d'ailleurs écouter votre père qui va en dire un mot.
Ah oui, il y a sa voix qui va arriver là.
Oui.
Ah, ça c'est pas facile.
C'est plus dur pour vous.
C'est bien bluff. quand la voix déboule comme ça, c'est bien.
On va retrouver effectivement une des orchestrations de votre père pour le Châtelet. C'est donc j'ai choisi l'opérette Le Secret de Marco Polo et chantée bien évidemment par Luis Mariano. Mais on entend effectivement d'abord la voix de votre père qui revient rapidement, mais de façon précise, sur cette époque.
Ah, Luis Mariano était un artiste merveilleux. Mais j'ai fait sa connaissance lors de la première orchestration que j'ai pu faire au Châtelet, puisque j'ai orchestré 18 opérettes, dont 11 ont été créées au Châtelet entre 1948 et 1978.
La terre, j'ai fait claquer comme un drapeau le nom de Marco Polo. J'ai vu les roses disparaître et les 2000 mystères où brillent encore plus de diamants que d'étoiles au firmament. J'ai vu tant de merveilles et vu tant de trésors que j'en rêve encore. J'ai vu l'enchantement du soleil, du levant et des nuits de l'Orient. Mais un désir toujours nouveau, une éternelle chimère, au long des routes, au gré des flots, appelle Marco Polo. Je n'ai jamais, jamais suivi la route la plus sûre. Je suis toujours bien moins épris d'amour que d'aventure. La blonde et la brune venaient tour à tour sous le clair de lune m'offrir l'amour, mais l'une après l'autre je les oubliais. Vers mon destin je partais, au long des routes, au gré des flots et tout autour de la terre, vers des pays toujours nouveaux, s'en allait Marco Polo. Parmi belles aux yeux troublants qui m'ont souri tendrement, j'ai vu tant de merveilles et vu tant de trésors que j'en rêve encore. Mais je cherche à présent le bonheur que j'attends de l'amour le plus ardent. Au long des routes, au gré des flots et tout terre, aller sans trêve et sans repos, et repartir aussitôt. Voilà le sort toujours nouveau. La
Luis Mariano en 1959 dans Le secret de Marco Polo. C'est drôle parce que Christian Bono, oui, en écoutant, vous me disiez « Ah ça c'est très Bono, c'est très Bono ». Ça veut dire c'est le son, oui. Paul Bono, à quoi on le reconnaît,
ben oui,
le son Paul Bono.
Il a une facture, c'était, bon, je ne sais pas parce que c'était mon père, mais c'était un merveilleux orchestrateur avec les sonorités d'orchestre, les couleurs, les harmonies. Alors
l'amour des cordes.
L'amour des cordes, de la harpe, même les ondes Martenot, pas là, mais parfois. C'est final, Bono était... Ce qu'il voulait, c'est qu'à la fin d'un titre, indépendamment du talent de Mariano, qui chantait fortissimo, sans micro, par-dessus l'orchestre au théâtre du Châtelet, les finales de mon père, il voulait que ça applaudisse carrément, donc dans les harmonies, les montées, le fortissimo,
et surtout
ne pas couper les vibrations. Et il l'arrachait, il déchirait, et ça applaudissait, et les finales, waouh. C'était, oui, voilà.
Il faut préciser que c'était jamais Paul Bono lui-même qui était dans la fosse d'orchestre. Ah, il y avait des chefs, comme par exemple mon ami Jean-Claude Casadesus et d'autres qui ont dirigé à l'époque au Châtelet les orchestrations de Paul Bono, mais lui, il se contentait, ce qui était déjà beaucoup, de les écrire, si je peux dire.
Oui, mon père n'a jamais dirigé dans la fosse d'orchestre, mais il était presque tous les soirs en compagnie de Félix Nuvlon, qui a été chef d'orchestre
aussi au Châtelet.
Avant Jean-Claude Casadesus, même, qui a dirigé l'Auberge du Cheval Blanc.
Et alors, il a orchestré, outre le chanteur de Mexico, la Toison d'Or, Méditerranée, le Prince de Madrid, Gypsy et d'autres encore, Christian Bono.
Ben oui.
Et puis, effectivement, d'autres opérettes. Vous avez cité l'Auberge du Cheval Blanc.
Oui.
Nono Nanette, etc.
Il a, Valse de Vienne.
Voilà, il a peu à peu élargi en fait son répertoire au-delà de Francis Lopez dans ce domaine.
Oui, parce que quand Maurice Lehmann, qui était un merveilleux directeur au Châtelet, en 1948, il a voulu reprendre l'Auberge du Cheval Blanc, et l'orchestration germanique était assez lourde, pas pompeuse, mais c'était lourd, et donc il a demandé à mon père d'orchestrer. Et mon père a réorchestré l'opérette à nouveau en 68.
Avec votre aide.
Oui, parce que dans le titre, double, tadam, tam, padam, 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 tout bleu, qui est un désert de. Je lui avais dit, pourquoi tu ferais pas dans le ballet, pam, 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 padam, pam.
Un truc un peu plus jazzy, quoi.
Très jazzy, et il l'a fait comme ça. Donc effectivement, oui,
voilà votre contribution. Vous étiez parfois au Châtelet, vous êtes dans la loge,
dans les coulisses.
Vous avez vu justement Mariano et toutes les vedettes de l'époque de près à ce moment-là.
Oui, j'ai un souvenir qui est très émouvant. C'était parce que Louis est décédé en juillet 70. Oui. Ça fera 51 ans cette année. Et donc, durant le Prince de Madrid, mon père m'a dit dans les coulisses du Châtelet, c'était donc en mars 68. Il m'a dit, est-ce que tu veux voir Louis ? Je dis, évidemment. Et on monte, il avait dans les coulisses une espèce de roulotte qui était sa loge. Et je le vois habillé en Prince de Madrid, magnifique. Et mon père dit, bonjour Louis, je présente mon fils Christian. Et ça va Louis ? Et il a dit à mon père, je suis fatigué. Et son assistant lui mettait au fond de la gorge un brumisateur pour les cordes vocales, un peu comme du sirop Euphon. Voilà. Ouais. Et ensuite, il rentrait sur la scène du Châtelet en chantant Espagna. Et quand il a fini, je ne le dois qu'à toi. Et cette note aiguë-là, et mon père m'a regardé, il m'a dit, c'est quand même bien pour la centième. C'était, il donnait tous les soirs tout, quoi.
Vous étiez fasciné, vous, par ce grand spectacle qu'on voyait sur la scène du Châtelet, j'imagine.
Bien sûr. C'était, oui.
Les effets extraordinaires. Ah non, mais
Maurice Lehmann utilisait toute la profondeur de la scène du Châtelet pour les décors. C'était les grandes opérettes.
Alors, quelqu'un qui a fort bien connu votre père et qui en plus a été associé à certaines des grandes opérettes du Châtelet, en tout cas à l'époque, est avec nous ce matin. Malheureusement, pas dans le studio Christian Bonneau, parce que vous savez, en ce moment, tout est compliqué. Mais elle est là.
On sait qui, là.
Elle est là au téléphone.
Ah oui.
On va la retrouver dans un instant, mais on va d'abord l'écouter chanter La cigale et la fourmi, une mélodie justement encore composée par votre père sur la fable de La Fontaine, par votre père Paul Bonneau.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques graines pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août foie d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, mais vous déplaisez. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
Bonjour Nicole.
Bonjour Benoît.
Ben, je suis très très heureux de vous entendre aujourd'hui, même si vous n'êtes pas avec nous, je le disais, dans le studio, parce qu'aujourd'hui vous vivez à la campagne, ce qui j'avoue m'a un peu surpris parce que vous êtes une vraie Parisienne, vous avez grandi dans cette ville que vous aimez et finalement vous êtes partie.
Eh bien oui, je suis partie, je dois dire sans regret, parce que Dieu sait si j'ai aimé Paris, mais Paris n'est plus le Paris que j'ai connu. Maintenant, il y a tellement, quand on est en voiture, on reste dans la voiture, on peut pas en sortir. Quand on est dans un parking, on peut pas sortir de la voiture non plus, parce qu'on est comme des harengs dans une boîte en fer. Donc j'ai élu domicile dans ma résidence secondaire de Sarthe, au bord du Loir, où aujourd'hui je bénéficie d'un soleil magnifique. Voilà.
Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu La cigale et la fourmi qu'on vient de diffuser, chantée par vous, composée par Paul Bonneau. Vous vous rappelez cet enregistrement, l'enregistrement de cette série de fables avec Paul Bonneau ?
Bien sûr, je m'en souviens, bien sûr. Vous savez, c'était un régal de travailler avec Paul, parce que c'était un garçon d'abord d'une précision méticuleuse, si on peut ajouter le terme. Et de travailler avec lui, c'était très agréable. Et je me souviens très bien de l'enregistrement de ces fables.
De ces fables. Alors, il faut dire, Nicole Brassin, que Paul Bonneau, vous l'avez connu, on peut dire, au tout début de votre carrière, de votre grande carrière, si j'ose dire, puisque vous aviez été embauché donc pour le rôle de Rose de Noël au Châtelet, justement, d'après les musiques de Franz Léard. Et c'est Paul Bonneau qui avait conçu les orchestrations, même là, tout l'arrangement musical de cette œuvre. Ce n'est pas lui qui dirigeait dans la fosse, mais vous l'avez rencontré dans les répétitions, j'imagine, la première fois.
C'est-à-dire que ça s'est passé d'une façon très, 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 très amusante. Nous étions en train de répéter, et puis il devait y avoir certainement une répétition d'orchestre dans la journée, et Paul Bonneau était en train de mettre les partitions sur les pupitres des musiciens d'orchestre. Et quand il a entendu la jeune première, il a levé la tête, il s'est dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est intéressante, cette jeune première, je ne connaissais pas, bien entendu. » Et voilà, et c'est là qu'il a fait ma connaissance, et du fait que j'ai fait la sienne. On a beaucoup travaillé ensemble, on avait une très grande amitié l'un pour l'autre, et j'aimais beaucoup sa façon de travailler, parce qu'on musicalement, on avait des ressemblances. Voilà, et au point de vue musical, on s'entendait admirablement, vraiment.
Alors, c'est amusant pour les auditeurs de le raconter, dire qu'à l'époque, par exemple, il y avait, ça n'existe plus du tout aujourd'hui, Salgavo, des cycles de concerts de musique légère, d'ailleurs dirigés par Paul Bonneau, dans lesquels, en fait, on mélangeait des œuvres symphoniques, des œuvres chantées, des œuvres avec solistes, et vous y avez beaucoup participé vous-même.
Oui, c'était l'orchestre lyrique de la radio, de l'ORTF à l'époque, puisque ça s'appelait l'ORTF. Et j'ai participé à ces enregistrements qui étaient publics. D'ailleurs, c'était des concerts publics, Salgavo. Et j'ai chanté avec Jean-Christophe Benoît. J'ai chanté avec Gabriel Baquier, Henri Leguet, parce que je me souviens maintenant. Et voilà. Et on a chanté des œuvres de musique légère de Paul et également des œuvres de d'Offenbach et Le Messager. Voilà.
Et il a même aussi écrit pour vous, alors fait pour vous des expériences amusantes, par exemple dans ces morceaux qui sont signés les Amazones, où vous chantez vous-même tous les chœurs.
Ah oui, c'est toute seule. Expérience. Oui. Ah, c'était un très très gros travail. C'était de la dentelle, je dois dire. C'était vraiment de la dentelle. Oui, il avait composé donc plusieurs airs, entre autres, ça c'est pas lui qui les avait composés, puisque c'était le Noël blanc et le petit Papa Noël, et dont il avait fait tout l'arrangement. Mais je chantais en effet 5 voix, pas à la fois, puisque j'enregistrais différemment, mais c'était un orchestre à moi toute seule. C'était un très gros travail, mais c'était beau, c'était très beau.
Alors, on va se retrouver dans une minute, Nicole, mais je voudrais qu'on écoute justement une autre œuvre qui illustre votre proximité avec Paul Bonneau. C'est une opérette qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelait Champs-Élysées.
Ah oui. Alors, c'était très joli. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas eu lieu, parce que je trouve qu'il y avait un matériel formidable.
Voilà, oui. Et bien grâce à Christian Bonneau, on en a un enregistrement qu'on va entendre tout de suite. Oui. Et puis, on reprend le micro avec vous tout de suite après.
D'accord.
Oh!
Champs-Élysées, c'était Nicole Broissin sur la musique de Paul Bonneau. Vous vous rappelez l'argument de cette opérette, Nicole, ou c'est...
Je mentirais en vous disant oui.
En tout cas, voilà, il nous en reste ce joli morceau qu'on a donc, je le disais, grâce à mon invité ce matin, Christian Bonneau. Ça vous dit quelque chose, Christian Bonneau?
Oh, mais bien sûr, mon Dieu, oui.
Et bien justement, voilà, il est à côté de moi, je crois qu'il voudrait vous dire quelques mots.
Ah, quel plaisir.
J'ai tellement envie de t'embrasser, de te dire bonjour, de te parler, ça fait tellement longtemps. C'est beaucoup d'émotions pour moi, Nicole. Et j'ai remarqué dans Champs-Élysées, qui est en mi majeur, à la fin, tu fais un contre-si.
Ah ben oui, pourquoi pas.
Non mais attends. Et puis avant, il y avait, avant que ça reprenne, en demi-teinte, une note aiguë.
Ah oui,
qu'est-ce que tu chantes bien? Qu'est-ce que tu chantes
bien?
C'était
ma spécialité.
Ah oui, non, mais c'était du velours.
Ah oui. Si je comprends bien, Nicole, vous faisiez quasiment partie de la famille. Vous êtes très proche du fils de Christian.
Ah bah oui, j'ai connu Christian, Paul. Il était tout jeune. Il avait peut-être, je sais pas, 10 ans peut-être.
12
je sais
ans.
Pas.
12 ans.
12 ans,
en 1960.
J'en étais pas loin. Ouais. Et des années ont passé maintenant. Ce n'est plus un enfant maintenant. C'est un monsieur.
Voilà, un monsieur qui est très attaché au souvenir de son père. Je vous cite encore une fois, avant de nous quitter, chère Nicole Broissin, vous avez écrit un jour, quand il est mort, Paul Bonneau, « La musique était sa raison de vivre, il en était presque l'esclave des nuits entières, il remplissait de grandes feuilles blanches, de minuscules notes, telles de la broderie. » C'était vraiment un grand travailleur, hein, ce Paul
Bonneau.
Ah ben
tout à fait. Voilà. Alors c'était un bourreau de travail.
Ah, ouais.
Il travaillait trop d'ailleurs, il ne vivait que pour ça, mais il me disait toujours, moi j'aime la musique qui chante, voilà, c'était son terme, j'aime la musique qui chante, et voilà, et c'était un merveilleux musicien, il faut le dire.
En tout cas, chère Nicole Broissin, merci d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer si joliment le souvenir de Paul Bonneau, et puis j'espère que vous reviendrez quand même mettre le pied à Paris dès que ce sera possible pour nous rejoindre au studio de France Musique.
J'y mettrai même les deux pieds en même temps.
Les deux
même
pieds
temps.
En même temps.
En tout cas, merci de m'avoir invité et c'était très agréable de ces retrouvailles avec Christian.
Merci.
Voilà.
Pour moi, pareil.
À très bientôt, Nicole.
Merci, Benoît.
Christian Bonneau, oui, vous êtes un peu ému là.
Ah oui, je suis ému là, vraiment. C'est beaucoup aujourd'hui en même temps. La voix de mon père qui arrive et Nicole.
Alors, pour vous laisser un petit peu vous,
non, mais ça
vous,
va, ça
vous
va.
Relaxer maintenant, on va écouter une musique de votre père pour la télévision cette fois. Parce qu'il avait composé une très jolie pièce d'ailleurs de musique légère qui était le Bonsoir musical sur la chaîne Antenne 2.
Mmh, tout à fait.
Voilà.
Oui. Ça s'appelait à l'époque Fête de beaux rêves. Ensuite, il l'a réintitulé Sweet Dreams, ce qui est voisin.
Voilà.
Et donc, de 1965 à 70, ça a été avant qu'il y ait ensuite les dessins de Folon.
Oui.
Ça a été le Bonsoir musical de Antenne 2, devenue France
devenu
2,
par
pendant 5 ans.
Voilà.
Fête de beaux rêves.
Sweet Dreams, le bonsoir musical d'Antenne 2 de 1965 à 1970. Encore une composition de Paul Bonneau que nous évoquons ce matin en compagnie de son fils Christian Bonneau et aussi à l'instant de Nicole Broissin. Il faut préciser, Christian Bonneau, que votre père, dont on a évoqué donc la carrière de compositeur et de chef de musique légère, de grand orchestrateur d'opérette, a aussi été un compositeur de musique de film. Il a écrit beaucoup de musique de film.
Hein. Il a écrit, je me souviens de cette phrase, 51 grands films.
51, ouais. Pas 50, ah,
c'est
52.
Oui, c'est ni 49, c'est 51.
D'accord.
Ça m'amuse, oui.
On peut citer d'ailleurs les Moineaux de Paris avec les petits chanteurs La Croix de Bois, Adorable Démon avec Poiré et Serrault, Les Enfants Terribles de Melville, et puis des films musicaux comme À la Jamaïque ou Sérénade au Texas avec Luis Mariano, ou encore Honoré de Marseille avec, oui, Fernandel, Fantomas, oui, contre Fantomas avec De Funès, oui, des films qu'on n'a pas oubliés.
Et également pour la télévision avec Yves Régnier, le feuilleton Les Globetrotters.
Ah oui,
voilà. La musique, c'était pam 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 padam padam pam 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 pam. Ouais.
Voilà, tout ça, c'est l'œuvre de Paul Bonneau qui a vraiment, on l'a compris, travailleur infatigable, donc qui a, oui, beaucoup beaucoup produit, évidemment, un nombre d'œuvres qui avait été compté par Serge Laïc, je crois, de plus de 1000 pièces symphoniques.
Oui. Une chose que je voudrais dire, c'est que la raison pour laquelle mon père s'est réfugié dans la musique, c'est après son divorce avec ma mère en 1958. Ouais. J'avais 10 ans, et ce divorce a été pour lui le coup du père François, et donc il s'est réfugié, a fortiori, encore plus dans la musique. Ah, voilà. Oui. Et tout auprès de moi, voilà, en plus. Oui.
Alors, à la toute fin des années 50, au début des années 60, il y a aussi une autre aventure de Paul Bonneau qui va avoir un succès fou, c'est l'aventure des jeans, auxquels j'avais, oui, consacré toute une émission, puisque ces jeunes filles sorties de la maîtrise de Radio France, et encore donc toutes jeunes, trop pour entrer dans les chœurs, avaient formé un groupe entre musique légère, variété et classique, qui s'appelait les jeans. On en avait reçu quelques-unes, d'ailleurs, qui étaient venues ici évoquer leurs souvenirs donc, de ces années 60, avec des grands succès. En quelques mots, oui, l'apport de votre père aux jeans, son arrivée dans cette aventure.
Ben oui, parce que les jeans faisaient des concerts et il y avait eu, durant un concert, un chanteur dans le domaine de la variété et l'association ne fonctionnait pas. Donc on a, ouais, demandé à mon père de faire quelques arrangements plus légers et puis c'était chez Ducret et Thompson, comme par hasard, à, ouais, nouveau. Ouais. Ils lui ont suggéré, ouais, d'en faire d'autres et puis en 1959, avec Gilbert Bécaud pour parrain, voilà, les jeans se sont constitués, elles étaient 60, mais en enregistrement 40. C'était harmonisé à trois voix.
Alti, très bien fait.
Alti, mezzi, soprani, plus l'orchestre. Et tout le monde enregistrait en même temps. En, voilà, même temps, ils ont fait 75 titres en 3 ans.
Dont certains que j'adore comme Oui, oui, oui.
Oui, 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 oui.
Et puis
C'est si bon d'Henri Betty.
Voilà. Oui. Ou encore, alors là, on va écouter une rareté que vous nous avez apportée, qui s'appelle Bravo, mon général.
C'était pour le général de Gaulle,
ah oui, ben,
qui
voilà,
était arrivé à la tête de l'État en 58. Et Henri Betty pour la musique, André Ornez pour les paroles. Et mon père pour les arrangements et l'orchestration. Et le titre, c'était Bravo, mon général. Ils n'ont pas osé le sortir. Mais j'ai retrouvé l'enregistrement.
Rareté.
Je suis le seul à l'avoir. C'est une pépite.
Et juste avant, on retrouve une fois encore la voix de votre père qui évoque justement l'aventure des jeans.
La création des jeans, j'ai reçu la visite un jour d'un responsable de notre radio nationale, et en me disant, la maîtrise de la radio participe à des concerts, et l'autre jour nous avions un artiste de variété, évidemment, nous la maîtrise avec des œuvres qui datent de 200 ans, et puis les variétés, évidemment ça n'a pas marché. Alors, est-ce que vous pourriez pas faire quelques arrangements? J'ai donc fait quelques arrangements, et puis quelques temps après, ils m'ont dit, mais vous pourriez en faire d'autres, et puis les orchestrer, on pourrait à ce moment-là peut-être envisager de les reporter sur 10. Et c'est ce qui est arrivé. Nous avons fait un enregistrement, et on a obtenu d'ailleurs le prix du disque 15 jours après.
Bravo, 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 mon général.
Bravo, mon général. C'était
quel document, hein?
Oui,
quel document.
Ça, j'adore. On s'y croirait au début de la Ve République, oui, avec donc la musique, les arrangements très joliment faits de Paul Bonneau, comme toujours. Christian Bonneau, votre père l'a dirigé les séances d'enregistrement pour les films.
Oui, oui, oui. Parce que j'y étais, hein, j'avais 12 ans à l'époque, j'y étais.
Vous avez dit qu'il ne dirigeait jamais dans la fosse au Châtelet, mais par contre, il aimait diriger. C'était un chef d'orchestre, pas seulement un compositeur et un orchestrateur.
C'est... Oui, et même vers la fin de sa carrière, il y a le producteur d'opérette et de théâtre, Nick Varlan, qui faisait faire à mon père des directions d'orchestre d'ouvrages comme My Fair Lady. Et il était très heureux de prendre la baguette. Donc il l'a fait sur la fin, beaucoup.
Voilà. Il y a un merveilleux enregistrement de Nono Nanette par votre père aussi.
C'est vrai,
Mais il aimait aussi diriger les classiques, ce qui lui arrivait quand même dans ses concerts.
C'est surtout durant la période où il était artiste, chef d'orchestre chez Ducrete Thompson. Il enregistrait des pièces de Strauss, de Tchaïkovski, etc.
Voilà, il n'avait pas de regrets ou d'amertume par rapport à la carrière de compositeur, au sens plus classique du terme, de ses camarades du Tilleul et autres.
Mais c'est-à-dire que, effectivement, plus on s'éloignait du conservatoire, moins les compositions étaient austères, pseudo-dramas. C'était plus léger, mais toujours tellement avec des structures d'harmonie, du solide avec ce qu'il avait étudié au conservatoire. Donc, c'était a fortiori extrêmement bon pour la variété venant du très sérieux, du très classique. Mais, voilà. Oui, mais il ne regrette rien, que ce soit le film, les opérettes du Châtelet, etc., les titres enregistrés pour les éditions Chapelle. Il n'a rien regretté.
Et le déclin de la musique légère, il l'a connu un petit peu à la fin de sa vie, quand même, là où on en faisait moins à la radio, où les opérettes étaient plus rares. Non, c'était pas un homme de regret.
Si. C'était une amertume, quand même.
Quand même.
Oui, absolument. Oui.
Alors, vous avez apporté encore deux documents qu'on va évoquer maintenant, d'une façon peut-être un petit peu plus mélancolique, justement, Christian Bonneau. C'est le dernier morceau, le dernier enregistrement de votre père, qui s'appelle « Romance pour une inconnue ».
Ah oui.
Encore une pièce, on peut dire, de musique symphonique légère. Hein,
oui.
Mais qu'on va entendre. Alors, vous l'aviez enregistré vous-même au piano.
Oui, il était dans son bureau.
Oui.
Et j'avais mis un micro près du piano. Et il a joué la partie de piano qui était déjà... De toute façon, les parties de piano de papa, c'est ce qu'on appelle des réductions d'orchestre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un piano qui accompagne. Il y a déjà ce que feraient les cuivres, ce que feraient les cordes. Ça s'appelle une réduction d'orchestre. Et après, on a la chance de l'avoir à l'orchestre. C'est sa dernière composition, sa dernière mélodie, son dernier enregistrement. C'est pas rien.
Thank you.
Danse pour une inconnue, dernière orchestration, dernier enregistrement de Paul Bonneau. Avec ses amis, vous me disiez, en l'écoutant, Christian Bonneau, qu'il y avait encore là, justement, Roger Bourdin, le merveilleux flûtiste.
Oui, oui. Il le prenait toujours en séance.
À Bonneau. Ben voilà, on peut dire ça comme ça.
Oui, si vous voulez. Oui.
Avec Lily Laskin et les autres.
Oui.
Votre père, donc, est mort en 1995.
Oui.
Aujourd'hui, il est à l'honneur toujours dans les rues d'Evreux, la ville de son enfance.
Oui, à Evreux, il y a dans un nouveau quartier, depuis une vingtaine d'années, il y a une rue Francis Lopez, une rue Tino Rossi et une rue Paul Bonneau.
Et
j'ai la photo. J'aurais aimé une rue Luis Mariano, mais ils ont préféré Tino Rossi, je ne sais pas pourquoi.
Bah parce qu'il a chanté Méditerranée aussi,
orchestré
par votre père également.
Oui, mais Mariano, il a chanté Mexico. Enfin bon, enfin, il y a une rue Paul Bonneau, ouais, c'est
au moment d'ailleurs où votre père, à la fin de sa vie, était déjà malade, vous aviez rencontré un jour Lopez,
alors,
vous avez dit des mots émouvants.
Oui, quand mon père ne pouvait plus, même si physiquement il donnait le bon Dieu sans confession, il était toujours très très classe, très très bien habillé, je savais que ça n'allait pas très bien mentalement, cérébralement. Ouais. Et un jour, Francis Lopez m'appelle, il voulait faire une nouvelle opérette, il me dit « Mon petit Christian, je cherche ton papa ». Je lui dis « Francis, mon père ne peut pas s'engager ». Et donc j'avais rencontré Francis Lopez aux éditions Chapelle, devenue Warner Chapelle. Gérard Davous, le directeur, était là. Francis sort de son bureau et il y avait 4 ou 5 personnes. On était en cercle et Francis me dit « Je t'ai donc connu tout petit, en culotte courte dans les coulisses du Châtelet. Tu vois, je n'ai plus ton papa. Je n'ai jamais retrouvé ça. »
C'est touchant.
Ouais. Ouais. Ah ouais.
Et ce qui est touchant aussi, Christian Bonneau, j'ai envie de dire pour conclure, c'est l'attachement d'un fils pour son père, comme le vôtre, le temps que vous passez à essayer de faire connaître son œuvre, et puis on sent cette proximité que vous avez toujours eue avec lui.
C'est vrai, bah oui.
Bah oui.
C'est sûrement dû au fait que lorsque mes parents se sont séparés, il y avait peu de divorces en 1958, hein,
ouais,
très peu.
Ouais.
À Choisy-le-Roi, nous habitions, c'était notre famille, et indépendamment du fait que c'était rare qu'il y ait des divorces, ce qui était encore plus rare, c'était que c'est mon père qui a eu ma garde.
Qui a eu votre garde,
au terme du contrat de divorce.
Voilà.
Donc j'ai été scotché, je l'ai suivi partout, il m'a emmené partout. Donc Gérard Davoust m'a dit « Christian, vous êtes notre mémoire, je connais tout par cœur ».
Voilà, aujourd'hui vous avez la garde de l'œuvre de votre père,
oui.
Paul Bonneau, et on peut peut-être espérer encore des rééditions. Évidemment, le disque n'est plus un support qui fonctionne très bien, mais de titres,
oui, bien
de
sûr,
de Paul Bonneau.
Je n'arrêterai pas. Hein.
Bon. En tout cas, merci Christian Bonneau d'avoir été
avec
nous ce
Benoît.
Matin. On va se quitter joyeusement avec les jeans et la version, j'adore parce qu'à l'époque on traduisait toutes les paroles d'un grand tube américain cheek to cheek, mais avec les jeans ça devient joue à joue.
Oui, et le final, Bonneau, est brillantissime, vous allez voir, avec les voix. Merci Benoît,
merci. Merci Christian, à bientôt.
Merci.
Cheek to Cheek, alias Joue à Joue, donc par les jeans, les jeunes filles de l'ORTF dans les très jolis arrangements et orchestrations de Paul Bonneau. Paul Bonneau, ce maître de la musique symphonique légère qu'on a évoqué ce matin, en compagnie de son fils Christian Bonneau et de Nicole Broissin.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis, le saviez-vous, dans quelques jours, ce sera les 50 ans de la disparition de Fernandel, le grand Fernandel, qui est mort le 26 février 1971. Et je dois vous le confesser, j'ai une vraie passion pour Fernandel depuis l'âge de mes 15 ans, aussi bien pour le comédien que pour le chanteur, ce diseur extraordinaire, mais aussi cet interprète de rôle parfois complètement loufoque dans des films comme Raphaël le Tatoué, Les Cinq Sous de la Varède et encore quelques autres. Alors, chaque samedi, pendant quelques semaines, je vous proposerai de retrouver la voix parlée et la voix chantée de Fernandel. Aujourd'hui, d'abord un petit bout d'interview de 1954 où il évoque ses premiers rôles au cinéma et notamment le Rosier de Madame Husson, vous savez, cette histoire de Maupassant dans laquelle un garçon très chaste devient un amoureux déchaîné.
Quels sont les personnages de chacun de vos films qui ont marqué sur votre carrière ?
Le Blanc et le Noir, c'était mon premier film, d'accord, mais c'était surtout le premier film de Rému. Ayant fait ce rôle de second plan et remarqué par Allégret, qui m'a trouvé très bien, paraît-il. J'ai fait quelques courts-métrages et il m'a montré la bobine du Blanc et le Noir où j'interprétais le rôle du chasseur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi je faisais rire sur la scène lorsque je rentrais. J'avais, comme on dit vulgairement, une drôle de gueule. Je ne l'avais jamais vue, c'était la première fois que je la voyais. Et toujours à ce concert Mayol, quelques mois après, après des courts-métrages, Les Gaîtés de l'Escadron, Paris Béguin, j'ai été contacté pour tourner le Rosier de Madame Husson, qui alors, à ce moment-là, est devenu le rôle principal du film et qui, à son époque, a eu un très grand succès, ce qui a d'ailleurs a fait mon nom.
Ça vous a fait connaître, d'ailleurs tout le monde connaît encore le Rosier de Madame Husson.
Je jouais aussi un rôle de Rosier, comme dans Le Blanc et le Noir. Et après ce film, mon nom a été sur tous les écrans de France et j'ai commencé une carrière cinématographique sur laquelle je ne comptais pas, car je comptais exclusivement faire du tour de chant.
Depuis que je connais l'amour, j'en veux encore, j'en veux toujours. Qu'il est loin le temps des soupirs, je suis en proie à des désirs. Toutes les femmes que je vois, je voudrais les avoir à moi. Voilà ce que je suis devenu en goûtant aux fruits défendus. Un homme qui des caresses n'a plus peur. Un homme, un dur, un vrai, un séducteur. Un homme qui a compris qu'un peu trop tard et qui sort de son cauchemar. Un homme qui veut faire son métier d'amant. Un homme qui se moque des boniments. Un homme qui a connu le mal d'aimer et qui saura vous le prouver.
Je ne puis en croire mes yeux, de mon rosier si vertueux. Ils en ont fait un liberté, pour lui quel tragique destin. Je ne peux que verser des pleurs sur cette douce et tendre fleur. Voilà ce qu'il est devenu en goûtant aux fruits défendus.
Un homme
qui les caresse n'a plus peur.
Un homme,
un vrai, un dur, un séducteur.
Un homme qui n'a compris qu'un peu trop tard et qui sort de son cauchemar. Un homme
qui se moque des boniments.
Un homme
qui veut faire son métier d'amant.
Un homme
qui a connu le mal des vies
et qui saura vous le prouver.
Un homme qui se moque des poniments.
Un homme
qui veut faire son métier d'amant.
Un homme
qui a connu le mal d'aimer et qui saura vous le prouver.
Fernandel en duo avec Germaine Duclos dans l'opérette Le Rosier de Madame Husson, qui fut elle-même montée sur scène quelques années après le film avec une musique de Casimir Oberfeld. On retrouvera Fernandel donc la semaine prochaine, mais on va terminer l'émission comme la semaine dernière avec mon très cher Errol Garner, parce que je suis tombé entre-temps sur cette merveilleuse version de la musique de Gershwin, The Man I Love, une grande version donc par le trio d'Errol Garner en juin 1956. merveilleux Errol Garner qu'on entendait d'ailleurs grogner en arrière-plan dans The Man I Love, enregistré en 1956. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil, Eric Carrère, réalisation Christine Amado. On se retrouve la semaine prochaine avec Stéphane Lerouge pour parler de musique, de cinéma. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.